Les 21 jours d'un neurasthénique, chapitre 8. J'ai revu, plusieurs fois, Monsieur Émile Olivier, toujours calme et souriant. Mais ce calme et ce sourire ne m'effraient plus depuis que j'en sais la cause, depuis que leur secret me fut révélé. Il y a de cela 4 ans. C'était dans un wagon, naturellement. Les genoux couverts d'un plaid quadrillé, le chef d'une toque écossaise, de ces toques qui ressemblent à des bourdes à loups renversées. Monsieur Émile Olivier allait vers des destinations expiatoires et inconnues. Du moins, j'aimais à me figurer qu'il en fût ainsi. Ce spectacle d'un Émile Olivier que j'imaginais errant par le monde, sans s'arrêter jamais et partout maudit, d'un Émile Olivier traversant les plaines, les montagnes, les mers, les forêts, quittant les railways pour les tramways pour les paquebots les chameaux pour les traîneaux, sans cesse à la recherche d'un impossible silence et d'un plus impossible oubli. Ce spectacle réjouit tout d'abord, je l'avoue, mon âme de patriote assoiffée de justice. Les âmes de patriotes sont toujours assoiffées de quelque chose. Et je songeais à l'Alsace-Lorraine, avec quelle pitié attendrie. Lui aussi devait y songer, et combien amèrement le malheureux. Il était fort pâle, avec des paupières boursouflées d'insomnie et une expression de souffrance sur toute la face. Je lui sus gré de cette plastique, si parfaitement harmonieuse à ce que je supposais être l'état de son âme, et je ne pus m'empêcher d'en être ému, car je suis de ces patriotes, un peu fantaisistes, je le reconnais, et nullement cornéliens, en qui le patriotisme n'a pu encore étouffer complètement les sentiments d'humanité généreuse et de miséricorde. Oui, cet homme, car n'est-ce point un homme après tout, mais mouvait. Pensez donc, depuis 30 ans qu'il voyage, sans une relâche, ici sous les plus déments soleils, là dans les glaces les plus implacables, ballotté par la terrible ananké d'un pôle à l'autre, éternellement. Peut-on concevoir pire supplice? Est-il quelque part destiné plus torturante? Ah, le pauvre diable! Mon imagination, qui ne m'en fait jamais d'autre, allait, et violemment me poussait aux nobles indulgences, au plus complet pardon. J'en étais arrivé à cette exaltation, à ce paroxysme, de souhaiter, pour Monsieur Émile Olivier, la mort qui libéra Bazaine. Et j'invoquais fiévreusement je ne sais quelle divinité abstraite qui ne m'entendait pas. Il a assez marché, il a assez traîné sur la terre sa pauvre guenille. Grâce qu'il s'arrête enfin quelque part, n'importe où, ne fût-ce que sous l'ombre d'un saule, dans le coin d'un cimetière ignoré. Un banal incident de portière, à propos de quoi deux voyageurs disputaient pour savoir si elle devait être ouverte ou fermée, et qui nécessita notre intervention, nous lia fort à propos. Et sans plus de cérémonie, nous nous présentâmes l'un à l'autre. Ah, la vie! Charmé, monsieur! Enchanté, vraiment! Monsieur! Monsieur! Mais, en dépit de ces salutations cordiales, il ne nous était pas possible de parler librement tant que ces deux voyageurs, d'assez mauvais ton du reste, seraient là à nous espionner. Par bonne éducation, autant que par pitié, je ne voulais pas livrer au colibé grossier de ces rustres, de ces franco-rustres, et peut-être, à leur ignorante colère, ce personnage en toque écossaise, ce paria désarmé et douloureux, ce lamentable juif errant de l'éternel remords, dont il me semblait que j'avais, chevaleresquement, assumé la garde et soumissionné le respect. Et même, afin de détourner l'attention de ses gênants compagnons, à qui notre manège n'avait pas échappé et qui commençaient à considérer l'homme du désastre avec une évidente hostilité, je crus devoir, à plusieurs reprises et à haute voix, appeler celui-ci « Monsieur de cœur léger » et, lui donnant la qualité temporaire de vigneron champenois, l'interroger sur la récolte des raisins. Délicatesse dont son regard étonné m'apprit qu'il n'était point satisfait, au contraire. À quelques stations de là, les deux voyageurs descendirent. Nous étions seuls désormais, et nous avions des heures et des heures et des nuits à rouler sur les rails, entre des paysages indifférents. Aussitôt, mon attitude bienveillante s'efforça, par tous les modes du sourire, à inciter M. Émile Olivier aux plus intimes confidences, et, l'âme toute pleine d'une exorable tristesse, je dis, à part moi, « Parle, pauvre homme, et vide-toi le cœur, vide-le tout entier. Il n'y a rien de si bon et qui calme mieux quand on souffre. Et si tu veux pleurer, pleure. Ah, pleure, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui trouverai ridicule tes larmes. » Mais écoutait-il ce fervent langage intérieur? Non, il ne l'écoutait pas, car voici comment il parla. « Monsieur, j'ai lu les journaux de ce matin. Eh bien, cela ne va pas du tout. Cela va de mal en pis. Nous ne sommes pas gouvernés. Nous sommes moins gouvernés que les sauvages les plus nus du continent africain. Et en vérité, je ne sais pas. Non, je n'ose pas savoir. Je ne veux pas savoir où nous allons. Il n'y a plus de principe en France, monsieur. Plus de tradition, plus de religion. » Plus de morale, plus de respect des lois, plus de patriotisme, plus rien, plus rien. C'est monstrueux. En effet, dis-je, déjà refroidi par ces paroles, que je n'attendais pas d'une telle bouche. Monsieur Émile Olivier continua. C'est monstrueux, un gouvernement de désordre et d'ignorance, recruté parmi les plus basses médiocrités provinciales. Un parlement de pirates à qui par surcroît il s'est constitué prisonnier. Et le socialisme comme fond de tableau avec ses meurtres, ses émeutes, ses grèves, toutes ces violences révolutionnaires érigées en légalité. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Si du moins il existait encore une réserve, une arrière-garde dans le personnel politique. Des hommes comme moi. Ah oui! Partout des gens qui ne s'intéressent à rien d'autre qu'à leur fortune personnelle, qui ne pensent à rien d'autre qu'à leur poche et à leur ventre, et qui ont oublié Lamartine. C'est abominable. Cela ne s'était jamais vu, et je ne comprends pas comment la France les tolère plus longtemps. Non, vraiment, la patience de la France m'indigne et me révolte. Elle m'exaspère, me fait sortir hors de moi. « Votre placidité m'étonne, vraiment. » Comme je ne disais rien, muet d'étonnement, il reprocha. « Vous ne voyez donc pas ce que font ces criminels? Ils creusent l'abîme qu'on ne comblera plus. Encore quelques semaines de ce régime, quelques mois tout au plus, et c'est... Savez-vous ce que c'est ?»« Parlez, » fis-je de plus en plus glacé. « Eh bien, c'est la banqueroute, cher et aveugle monsieur. Et écoutez-moi bien de vos deux oreilles, et retenez bien ce que je vais vous dire. C'est le démembrement de la patrie. De la patrie, est-ce clair ?»« Vous êtes sévère, monsieur Émile Olivier. » Ce nom de « Émile Olivier » que je venais de proférer, rapproché de ce bout de phrase « démembrement de la patrie » qu'il venait, « Oh, inconscience, oh, impudeur !» de souligner si cruellement, retentit dans le wagon comme un écho tragique du passé. et je frissonnais à ce nom de la tête aux pieds. Car dans ce nom, au moment même où il était sorti de mes lèvres, j'avais perçu nettement, distinctement, et pour ainsi dire, un à un, les grands cris de rage, les sanglots des veuves, les malédictions des mères, les hurlantes clameurs de la défaite. Mais, de même qu'il n'avait rien entendu de mon implorante invitation à l'humilité et au repentir, de même, le nom de Émile Olivier, brusquement jeté à sa face, ne lui apporta pas d'autre écho que celui de sa propre vanité et de son incommensurable orgueil. Il sourit à ce nom, se mira dans ce nom, comme dans un miroir de mensonge, se trouva beau, et il répondit d'une voix emphatique « Non, je ne suis pas sévère, je suis juste et perspicace, voilà tout, et je suis patriote. Je suis un politique supérieur, moi, un homme d'État clairvoyant, qu'ont façonné les grands exemples de l'histoire et les grandes luttes contemporaines où s'illustra mon nom. Je connais les hommes, mon cher monsieur, et comment on les dirige et gouverne. Et je connais aussi la situation de l'Europe, ses ambitions effrénées, ses machinations secrètes, ce qu'elle attend de nos littératures corrompues, de notre art putride, ce qu'elle espère de notre légèreté et de notre ignorance. Et c'est pourquoi je vous dis, nous allons à la conquête, au morcellement de la patrie, de la patrie. » Dans un magnifique mouvement oratoire, il enleva sa toque écossaise qui roula parmi les journaux et brochures sur les coussins et il poursuivit. L'entente est faite entre les puissances. Le partage consenti. Là-dessus, mes renseignements sont formels. J'ai fait ce que j'ai pu, mais que pouvais-je sans mandat? Je ne suis plus rien. Je n'ai plus rien que mon éloquence et mon génie politique. On ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, on n'écoute plus le génie politique et l'éloquence est méprisée. Voici donc ce qui est décidé. Comme mon cœur saigne, l'Espagne s'annexera les Pyrénées, l'Italie, Nice, la Savoie et les Bouches-du-Rhône. L'Allemagne prendra l'Alsace, la Lorraine et la Champagne. Quant à l'Angleterre, à l'insatiable Angleterre, parbleu, elle prendra... Et il fit un geste qui cambriolait le globe. Je ne l'écoutais plus. Je le regardais. Non, en vérité, il n'avait pas l'air de se jouer de moi, ni de se jouer à soi-même la comédie d'une aussi énorme et cynique mystification. En mettant au futur l'annexion à l'Allemagne de l'Alsace-Lorraine, il ne croyait pas faire une plaisanterie insultante. Il était de bonne foi, et sincère, et peut-être enthousiastement patriote en son inconcevable aberration. Et il continuait de parler, avec une réelle et chaude colère, des lueurs de prophète dans ses yeux. Il parlait de tout, jugeait de tout, condamnait tout, les hommes et les choses, sans une indulgence, sans une pitié, affolant son pessimisme accusateur à la griserie de son verbe lâché. Malgré moi, j'entendis encore cette phrase. En politique, on n'a pas le droit de se tromper. L'erreur est un crime. L'erreur est une trahison. Si grande était ma stupéfaction que je ne songeais pas un seul instant à protester, à le rappeler à la pudeur de soi-même, à lui montrer le pilori dont 30 années d'oubli, mais non de pardon, n'ont pu le déclouer. Et pourquoi y eussé-je songé? À quoi bon? Puisqu'il n'y avait qu'une minute, rien qu'à entendre son nom, Monsieur Émile Olivier n'avait pas frissonné de honte, ni claqué des dents de terreur, puisqu'il ne s'était pas caché sous sa couverture la tête, puisqu'il n'avait pas pensé à se fracasser la cervelle en se jetant par la portière dans la nuit. Ouais, à quoi bon? Car je comprenais maintenant le secret effarant de cette attitude. J'avais l'explication de cette affolante inconscience. Monsieur Émile Olivier avait tout oublié. Devant un aussi étrange phénomène pathologique, ma colère se calma soudain, et d'une voix douce, comme on parle aux malades et aux pauvres fous. « Allons, lui dis-je, voici la nuit, roule-toi dans tes couvertures, allonge-toi sur les coussins, tais-toi surtout et dors !» Hier, j'ai suivi sur les allées Monsieur Émile Olivier, qui se promenait avec Monsieur Dossonville. Il était fort agité, et je l'ai entendu qui prophétisait encore les plus affreux malheurs sur la France. « Je vous dis, mon cher collègue, que c'est, à brève échéance, le démembrement de la patrie. De la patrie !»« Il nous faut un roi !» argumentait Monsieur Dossonville. « Non !» répliquait vivement Monsieur Émile Olivier. « Un empereur !» Et Monsieur Dossonville conciliait « Un empereur roi !» À plusieurs reprises, car ces paroles ne me parvenaient pas toutes, Monsieur Émile Olivier criait d'une voix acerbe « De la patrie ! De la patrie !»